On va repartir du début. Vous avez eu aujourd'hui 3 accidents sérieux de centrales nucléaires dans le monde. 2 ont fait 0 mort. 0. Three Mile Island et Fukushima ont fait 0 mort à cause de la partie nucléaire. D'accord. Le seul accident qui ait fait des morts, c'est Tchernobyl. Tchernobyl est intervenu sur un réacteur qui est un modèle qui n'existe ni en France ni en Chine. Bon. Et tous les accidents ne se valent pas. On ne peut pas avoir n'importe quel type d'accident sur n'importe quelle centrale. La question de la sûreté en ce qui concerne le nucléaire est une question qui est... Le risque zéro n'existe nulle part dans le monde. Et la question est de savoir jusqu'où est-ce qu'on rajoute des milliards pour se protéger contre un surplus de risque, alors que ces mêmes milliards employés ailleurs auraient permis d'éviter plus de malheurs aux hommes. C'est ça la question, c'est celle de l'arbitrage. Le risque zéro, encore une fois, n'existe nulle part. Ce que dit le rapport de Jean-Martin Fols, c'est que la filière française a perdu de la compétence. Ça, c'est tout à fait... Il ne dit pas « on a un problème de sûreté ». Du reste, il peut d'autant moins le dire que ce n'est pas son domaine. On a une autorité de sûreté en France qui est là pour ça, et ce n'est pas le job de Fols.
De toute façon, pour l'instant, l'EPR ne fonctionne pas, donc on n'a pas de problème. On a juste
l'EPR fonctionne très bien, il y en a 2 en Chine.
Non, je parle de l'EPR de Flamanville.
Ah, alors donc il faut être précis. Donc l'EPR de Flamanville n'est pas encore en fonction. Les EPR chinois fonctionnent très bien, ils sont en service commercial à pleine puissance aujourd'hui. Ils ont été construits avec là aussi un dépassement calendaire et un dépassement de budget, mais pour des têtes de série, c'est quelque chose qui est connu. Vous savez que la Tour Eiffel a été construite pour 3 fois son budget initial, Eurotunnel a été construit pour 5 fois son budget initial, et le gisement de Kashagan au nord de la mer Caspienne, qui est un gisement pétrolier, a été construit pour 10 fois, l'exploitation a été construite pour 10 fois son budget initial. Donc le fait qu'il y ait des dépassements de budget, c'est pas quelque chose qui, en soi, est porteur d'un danger. La Tour Eiffel, c'est pas dangereux. Je pense pas que tous les touristes qui montent dessus tous les jours meurent parce que ça a été construit pour 3 fois le budget initial. Donc il y a 2 choses qu'il faut bien séparer. Il y a les questions de danger et il y a les questions de surcoût. Et on ne parle pas de la même chose. Donc Fols a dit, il y a un surcoût, et ce n'est pas normal qu'il y ait un surcoût dans des proportions de telles, et je suis évidemment d'accord avec lui. Alors la question c'est pourquoi est-ce qu'il y a eu un surcoût? Et Fols, en gros, il distribue les mauvais points à tout le monde. Donc il distribue les mauvais points aux gens qui ont construit la centrale, parce qu'ils disent que les gens se sont avancés de façon un peu imprudente à dire on sait faire, alors qu'ils ne savaient pas... il fallait qu'ils retrouvent la main. Donc en gros, le budget initial était totalement fantaisiste. Le délai initial prévu était aussi totalement fantaisiste. Maintenant, la bonne question, c'est pourquoi est-ce que la filière française a perdu de la compétence? Et alors, elle a perdu de la compétence, 1, parce que ça fait 20 ans qu'elle n'a rien construit, mais 2, parce que ça fait 15 ans qu'elle est otage de manœuvres politiciennes à courte vue, et que quand, pendant 15 ans, le pouvoir politique vous dit en sous-main « c'est très bien ce que vous faites », pendant qu'il dit en public « ce que vous faites, c'est nul », à un moment, ça pose quand même quelques petits problèmes dans la gestion de la filière. Donc, et ça, Fols le dit en creux aussi.
Il y a aujourd'hui, vis-à-vis du nucléaire, malgré tout des inquiétudes. Alors vous dites Fukushima n'a tué personne. Est-ce que sur le moyen terme, on peut en être aussi certain? Oui. Est-ce que les cancers sur le lieu, un des lieux qui aujourd'hui sont inhabitables?
Vous savez quel est le salarié le plus irradié de France?
Non, je ne sais pas.
Si vous le connaissez, vous connaissez très bien son nom, au salarié le plus irradié de France. Il s'appelle Thomas Pesquet. Ne faites pas cette tête, oui. Thomas Pesquet.
Vous faites confiance?
Parce que quand vous allez dans l'espace, vous prenez du rayonnement cosmique. Qui est une forme de rayonnement ionisant. Prenez des particules qui sont projetées à grande vitesse. Thomas Pesquet prend, pendant les 6 mois que dure son séjour dans la Station Spatiale Internationale, à peu près 9 fois la dose maximale admissible pour un travailleur du nucléaire en France. 9 fois. Il est toujours vivant. Après, la deuxième catégorie, la première catégorie de salariés globalement la plus irradiée dans ce pays, alors il doit y avoir des professions médicales qui sont pas mal irradiées, les chirurgiens qui opèrent sous appareils d'imagerie, etc. Mais vous en avez une qui est plus irradiée que les travailleurs du nucléaire, c'est les travailleurs du transport aérien. Le personnel navigant aérien, toujours pour les mêmes raisons, parce qu'il est plus exposé au rayonnement cosmique quand il est à 10 000 mètres d'altitude, est en moyenne plus irradié que les salariés d'EDF et de la filière nucléaire. Donc vous n'avez pas nécessairement tout le monde qui meurt à partir du moment où vous êtes exposé au rayonnement ionisant.
Ça veut dire que selon vous, Fukushima ne...
C'est pas selon moi. Il se trouve qu'il y a un... Vous avez peut-être entendu parler du GIEC. Ça vous dit quelque chose. Bon. Le GIEC est une instance onusienne qui a le mandat de compiler, de synthétiser ce qui est disponible dans la littérature scientifique sur l'influence de l'homme sur le climat. Il se trouve que les Nations Unies ont créé en 1955, donc 33 ans avant la création du GIEC, une autre agence onusienne qui s'appelle, avec un accent délibérément français, l'UNSCEAR, c'est-à-dire United Nations Scientific Committee on the Effects of Atomic Radiation, dont les rapports sont superbement ignorés par les médias français. Donc ça, c'est une bonne question. La bonne question, c'est pourquoi est-ce que les médias français ignorent superbement ça?
Je vais vous poser dans ce cas-là.
C'est pas moi qui ai la réponse, c'est
question.
Vous. Moi, je travaille pas dans les médias français. Ces rapports compilent la littérature scientifique qui est disponible sur l'influence des rayonnements ionisants sur les hommes. Alors des rayonnements ionisants, vous en prenez à cause du rayonnement cosmique, vous en prenez à cause du rayonnement terrestre, tellurique, vous en prenez à cause des radios et de l'imagerie médicale. Et la question, c'est pas est-ce que vous allez mourir si vous en prenez, parce que ça, la réponse est non. La question, c'est jusqu'à quelle dose est-ce que vous pouvez aller avant que ça commence à devenir enquiquinant. Voilà. Ça fait très très longtemps qu'il y a des études sur la question. On sait très bien depuis longtemps que Marie Curie est morte à cause de ça. Et en 1928, il y a déjà une première commission de protection contre les rayonnements ionisants qui avait été mise en place. Donc il y a un siècle de littérature scientifique là-dessus. Et l'UNSCEAR a rendu des rapports de 400 pages en anglais que personne ne lit, à la fois sur Tchernobyl et Fukushima, et la conclusion du rapport sur
Tchernobyl,
Fukushima...
Tchernobyl, on est quand même d'accord pour dire qu'il y a eu des morts, la maladie
sûr.
Des rayons a fait des morts...
Bien sûr, je peux vous dire ce qu'il y a dans les rapports en question, que vous pouvez aller vérifier. En ce qui concerne Fukushima, le rapport dit il n'y aura pas de mort à cause du surplus de rayonnement ionisant, il n'y en aura pas. Voilà.
Bon.
C'est écrit écoutez, noir sur blanc.
Je vous crois, en revanche...
C'est pas moi qu'il faut croire,
journaliste...
c'est les gens qui... Oui.
Mais vous savez, la difficulté des journalistes, c'est que nous, on interroge des experts. Vous êtes un expert, donc je vous fais confiance et vous êtes là pour développer votre pensée. En revanche, je me souviens, en tant que journaliste de la catastrophe de Fukushima, à l'époque, on nous avait dit « En France, c'est pas possible ». Alors, c'est pas possible parce qu'effectivement, le risque de tsunami...
Je ne sais pas qui vous a dit ça. Le tsunami en France n'est pas possible, ça c'est sûr.
Voilà, bon. Ça, on est d'accord là-dessus.
Une fonte du cœur en France, c'est possible. Et si ça devait arriver, ça fera probablement la même chose qu'à Fukushima, c'est-à-dire que le cœur fondu restera à l'intérieur de la centrale et il n'y aura pas de conséquences à l'extérieur, exactement comme ça s'est passé à Three Mile Island.
Mais pour Three Mile Island, il s'en est fallu d'un cheveu pour que
je
le
sais
cœur...
Pas. Il s'en est fallu d'un... Le cœur a fondu et est resté dedans. Voilà. Il s'en est pas fallu d'un cheveu pour qu'il fonde. Il a fondu. Mais
l'une des
dedans.
Questions, par exemple, pour l'EPR, c'est que l'EPR qu'on développe nous a été vendu comme étant un système extrêmement sûr avec cœur...
Sans même aller jusqu'à l'EPR, les réacteurs actuels sont prévus en France pour que si ça fond, ça reste dedans.
Mm-hmm. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut dire sans risque que le cœur ne transpercera
pas le risque n'existe pas.
Le risque zéro, vous voulez dire.
N'existe pas. Par contre, ce qui est dommage aujourd'hui, c'est que dans le public, il y ait une compréhension du risque nucléaire qui soit totalement erronée. Alors, je vais vous donner un premier exemple de faillite médiatique, parce que pour moi, c'en est une. 80% des Français pensent que le nucléaire contribue au changement climatique. Alors, il peut avoir tous les défauts de la Terre, mais pas celui-là. Après, il y a énormément de gens... Quand vous faites des baromètres d'opinion en France, les déchets nucléaires font plus peur à la population que, tenez-vous bien, les accidents de la route, que les accidents domestiques. Les accidents domestiques, c'est 20 000 morts par an. Les déchets nucléaires, c'est zéro. Ça fait plus peur que l'obésité chez les jeunes. Ça fait quasiment aussi peur que le tabagisme. D'accord. Donc il y a une espèce de peur fantasmée dans l'opinion, et c'est la raison pour laquelle, en entrant ici, je vous avais dit, je ne veux pas parler que de ça, parce que
on va pas parler
le problème du nucléaire n'est pas un problème de risque, ou plus exactement de danger objectif, c'est un problème de risque perçu. Donc en fait, le vrai débat sur le nucléaire, c'est pourquoi est-ce que les médias sont pas foutus de fournir une information factuelle